Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Avenir Radieux, le podcast qui vise à explorer le monde de la transition énergétique. Si ce sujet vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes de streaming préférées. Bonne écoute! Et salut Lucie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est complètement d'actualité. Et puis c'est vrai que c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder sur ce podcast. Toujours dans cette exploration du monde de la transition énergétique. C'est vrai que je pense que l'action que tu mènes, elle est essentielle. Donc je vais te laisser en parler et d'abord je te laisse te présenter.
Salut Thomas, merci beaucoup de nous avoir invités, moi et plus globalement la structure que je représente aujourd'hui, Énergie Solidaire. Alors moi, mon parcours, qui suis-je exactement? Je suis quand même jeune actif parce que j'ai été diplômée il y a 2 ans et demi. J'ai bossé dans différents types de structures. Je suis diplômée de Sciences Po et d'AgroParisTech. Donc j'ai un peu ce double cursus où j'ai voulu me spécialiser dans la transition écologique. C'était pas trop le cas à Sciences Po. Et en même temps, la volonté de faire des passerelles justement entre le monde des techniciens purs et durs, ingénieurs, et le monde de la politique pour qu'on puisse prendre des décisions publiques un peu éclairées et basées sur une assise scientifique. Donc je trouve ce double cursus intéressant à ce titre. Et donc moi, j'ai fait des stages en agence d'État, en centre de recherche, en cabinet de conseil. Et je ne trouvais pas ma place dans ces différentes structures jusqu'au moment où j'ai compris que je ne pourrais que travailler... Peut-être que ça changera un jour, mais dans le secteur associatif ou des coopératives, mais en tout cas un secteur où je peux laisser transparaître mes convictions dans mon travail. Et donc ça m'a amené à bosser en asso de protection de la nature à Paris pendant un moment, dans une asso qui s'appelle Humanité et Biodiversité, qui a été présidée par Hubert Reeves d'ailleurs, que peut-être tu connais, qui est un astrophysicien de renom qui a beaucoup vulgarisé, beaucoup fait de vulgarisation scientifique. Et donc moi, je faisais du plaidoyer, donc j'allais convaincre les décideurs de mieux faire pour préserver la biodiversité. Donc là, j'étais plutôt sur le côté biodiversité que climat, énergie. Mmh. J'ai fait ça pendant un peu plus d'un an. Et puis, je me suis dit que je faisais ça à l'échelle nationale, donc pour les lois, les politiques publiques nationales, de manière générale, préservent mieux la biodiversité et la restaurent mieux. Et après ça, j'ai eu envie d'avoir, ça venait de mon premier master, ça venait d'assez loin finalement, d'avoir un impact direct sur un territoire, quoi. Je voulais travailler pour la transition écologique, je le savais. Je voulais qu'il y ait le volet social aussi de la transition qui soit traité, parce que pour moi, la transition écologique, elle sera solidaire ou elle sera pas, pour reprendre l'un d'entre nous. Mais je voulais surtout aussi, pour moi, elle doit s'opérer au niveau local, quoi. C'est là qu'on a les impacts du dérèglement climatique et de la crise de la biodiversité, c'est au niveau local. Donc les solutions, elles peuvent être trouvées que localement et par les acteurs locaux et appropriées par les citoyens, les collectivités, etc. Donc pour moi, ça a toujours été comme ça dans ma tête. Et donc c'est comme ça que je suis venue à Énergie Solidaire, en fait. Voilà, pour faire bref.
Ok, trop cool. Et bien justement, ouais. Donc maintenant, si tu peux rapidement nous dire ce qu'est Énergie Solidaire, quelle est la vision, et puis en quelques chiffres, un petit historique d'Énergie Solidaire, s'il te plaît.
Oui, Énergie Solidaire, c'est un fonds de dotation, donc c'est une structure qui est pas très bien connue, mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est entre l'association et la fondation. C'est reconnu d'intérêt général. Et la vocation d'un fonds de dotation, c'est collecter des dons, différentes formes de dons concernant, j'y reviendrai, et reverser ces dons à des actions d'intérêt général ou à des assos qui portent ces mêmes actions d'intérêt général. Donc en gros, ce qu'on va comprendre, c'est qu'on a un intermédiaire, nous. On va faire le taf de lever des fonds pour des structures qui en ont besoin et qui sont indispensables et qui ont cette vocation d'intérêt général, quoi. Et nous, on s'est spécialisé uniquement dans le financement d'actions de lutte contre la précarité énergétique. C'est parti d'un constat au départ. Énergie Solidaire est née en 2017 en partant du scénario négawatt, donc de dire que la transition énergétique, faut qu'elle se base sur les 3 piliers, sobriété, efficacité énergétique et production de renouvelables. Et donc, Énergie Solidaire vient traiter le pilier efficacité, en fait, par le fait de soutenir la rénovation des bâtiments pour les plus précaires. Parce qu'en fait, la lutte contre la précarité énergétique, les gens en précarité énergétique, c'est des gens qui n'arrivent pas à chauffer, qui ont froid dans leur logement, mais qui ont aussi chaud l'été, qui dépensent plus de 8% de leurs revenus dans l'énergie. Donc c'est tout un tas d'indicateurs qui permettent d'estimer qu'on est en précarité énergétique. Mais globalement, aujourd'hui, l'Observatoire national de la précarité énergétique, il dit qu'il y a 12 millions de personnes en France en situation de précarité énergétique. Donc une personne sur cinq, c'est énorme. Et on sait très bien que rénover les bâtiments, il faut produire du renouvelable, évidemment. Mais rénover les bâtiments et commencer à s'attaquer au bâti, à la fois ça aura des conséquences positives sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est un des grands postes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi surtout sur toutes les conséquences sociales, sanitaires, d'éducation pour des enfants aussi qui vivent dans un logement en précarité, en mauvaise condition. Donc il y a tout un tas de conséquences en fait qui font que la précarité énergétique c'est une spirale infernale et que ce sujet-là, si on s'y attaque, ça a un coût clairement pour les finances publiques, mais à long terme, c'est des coûts évités sur la santé, sur l'environnement, et donc c'est important de voir plus loin quoi pour nous et de lutter contre ce fléau.
Ok. Top. Non, là, c'est vrai que du coup, t'as commencé déjà à répondre à pas mal des questions que je souhaitais te poser par rapport à cette précarité énergétique. 12 millions de personnes concernées, c'est ce que t'as dit. Donc, concrètement, aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous les aidez finalement? Comment ça se matérialise?
Alors, il y a les différentes formes de dons dont je te parlais, que je vais un peu te développer. Ouais. En gros, on collecte. On travaille avec le fournisseur d'électricité renouvelable Enercoop. Et grâce aux clients d'Enercoop, on récolte des micro-dons sur les factures d'énergie. Donc ça, c'est une première forme de don qu'on a. C'est-à-dire que le client d'Enercoop va donner 1 ou 2 centimes par kilowattheure consommé. C'est pour un foyer moyen, en gros, on est sur un don d'une trentaine d'euros par an, qui étant défiscalisé à hauteur de 66%, comme un don particulier à une asso. Ça revient à environ 10 euros pour le client. Donc voilà, il y a tout un tas de personnes qui peuvent faire ce don-là à l'année. Donc ça, c'est une source de financement qui est pérenne pour nous et qui est vraiment intéressante. On a ensuite ce qu'on appelle le don d'énergie. Donc là, ça va être si des collectivités ou des entreprises ont des bâtiments en autoconso collective. Bon, je crois que tu en as déjà parlé dans un autre épisode. Et qu'il y a des surplus. Dans ce cas-là, on est capable, en travaillant avec Enercoop, encore une fois, de récupérer les surplus. Enercoop réinjecte sur le réseau et nous reverse le don en valeur monétaire, en fait. Donc on a ce mécanisme-là. Et puis, on a le mécénat classique d'une entreprise qui décide pour sa politique RSE, de responsabilité sociale et environnementale, parce qu'elle croit en ce qu'on propose, de nous soutenir, nous faire un don de 5000 euros, ça va lui coûter 2000 euros parce qu'elle est défiscalisée à 60% et nous, ça nous aide bien. Donc tous ces dons-là, ensuite, on les reverse via des appels à projets à des assos qui accompagnent les ménages en précarité énergétique. Je reviens là-dessus parce que en fait, on ne se rend pas compte, mais les personnes en précarité énergétique, elles ont besoin d'un accompagnement humain, personnalisé, adapté à chacune de leurs situations. Il ne suffit pas d'avoir des aides à la rénovation telles que propose l'État, les régions, etc. On a tout un tas d'aides qui existent. C'est déjà une très bonne chose qu'on ait un État et des collectivités et des acteurs publics qui proposent ça. Mais ça suffit pas, en fait. Sinon, l'argent public, ensuite, il est mal fléché. Et l'argent de l'impôt qui vient des citoyens, malheureusement, c'est pas efficace, ce vers quoi il est fléché. Donc là, il y a un souci. Et on a des acteurs qui sont les associations, les associations le font très bien, qui accompagnent sur le volet, mobilisation des bonnes aides qui vont bien pour tel ou tel ménage, analyse des devis des artisans pour s'assurer qu'on ait un bon bouquet de travaux qui soit fait, qu'on commence techniquement par l'isolation avant de s'attaquer au système de chauffage et penser l'étanchéité à l'air. Enfin, on a un vrai enjeu de formation aussi dans le domaine de la rénovation en France aujourd'hui, quand on veut faire un bouquet de travaux et pas juste s'attaquer à un type de travaux. Donc il y a pas mal d'enjeux et ces assos-là, elles ont l'expertise qui font qu'elles sont capables d'aider sur le volet technique, sur le volet financier, sur le volet juridique et de faire en sorte que y a un montage possible par rapport à ta situation propre dans ton logement, et sans compter qu'elles ont aussi le volet social qui est souvent indispensable pour des personnes qui sont souvent en multiprécarité, donc qui ont clairement pas d'énergie à déployer pour monter un tel projet de rénovation. et donc qui ont besoin de quelqu'un qui sait t'aborder, qui sait co-construire avec toi. Donc voilà, en fait, ça, c'est un fait. Aujourd'hui, ma prime rénov, les aides de l'État, elles sont malheureusement fléchées vers très peu vers des travaux de rénovation performante. Or, on sait que c'est ça qui sort les gens de la précarité énergétique. Et ben, pour boucler la boucle, il faut qu'il y ait des acteurs qui soient là et qui n'aient pas juste une heure pour venir faire un diagnostic chez toi et ensuite te laisser seul avec ton lourd projet de rénovation.
Ouais, ok, voilà. Je comprends. Très bien. Et justement, alors, en quelques chiffres sur le nombre de personnes, en tout cas, que vous avez accompagnées jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça donne ?
Nous, Énergie Solidaire, on est encore un petit acteur. Hein. On est en train de changer d'échelle doucement parce que donc, depuis 2017, on agit à l'échelle nationale. On a financé depuis 2017 27 projets un peu partout sur en France métropolitaine pour l'instant. Et en 2023, on a lancé notre premier programme régional, donc à l'échelle de la région Occitanie, en partenariat avec la région. Et là, l'idée, c'est de faire la même chose que ce qu'on faisait au niveau national, mais à l'échelle région. Donc, les acteurs qui nous financent doivent être basés en région. Et nous, on refait tomber, on essaye de générer des cercles vertueux, finalement, sur le territoire. Des entreprises, des développeurs, des énergies renouvelables qui, au lieu d'investir à l'étranger leurs bénéfices, voudraient nous faire un don et refaire retomber localement une partie de leur richesse pour les plus précaires. Ça nous paraît assez logique dans le montage et donc on essaye de les convaincre de ça. Et donc là, en Occitanie, enfin en 2023, on a lancé deux appels à projets, un au niveau national et un en Occitanie pour la première fois. 500 000 euros au total qui ont été reversés, enfin qui commencent à être reversés là à 11 associations qui ont été lauréates sur tout le territoire. Et pour te donner des projets un peu concrets, on va avoir Emmaüs Rhodes qui est basé donc à Rhodes dans l'Aveyron, qui là c'est le projet de rénovation de l'habitat des compagnons d'Emmaüs. Je sais pas si toi les auditeurs connaissent un peu, mais en gros la communauté Emmaüs c'est des personnes qui sont souvent sans papiers et qui, là, vivent dans un habitat de vétusté plus, sans salle de bain individuelle, avec incendie cet été dans les espaces collectifs, voilà. Et s'ils restent 3 ans dans la communauté Emmaüs, c'est sans papier, ils peuvent accéder à leurs droits et donc s'insérer aussi socialement et professionnellement. Donc là, voilà le type de projet. On peut soutenir Terre de Liens, Languedoc-Roussillon, où là, c'est la rénovation de logements de jeunes agriculteurs qui veulent s'installer en bio. Donc derrière, il y a indirectement un soutien à la transition agroécologique également. Des projets plus classiques de petits travaux pour des locataires en précarité énergétique de la ville de Montpellier. Petits travaux à impact immédiat parce que ils peuvent pas faire de rénovation performante. Les locataires, c'est pas en leur pouvoir. Un projet d'habitat solidaire pour personnes âgées. Voilà, il y a tout un tas de projets qui existent, d'associations qui sont porteuses de programmes d'expérimentation comme ça, qui fonctionnent, enfin, ou bien des projets qu'elles testent d'ailleurs, ou bien des projets qui fonctionnent déjà, mais où elles veulent étendre le nombre de bénéficiaires.
Ouais, ok. Ok, très clair. Alors là, je vais rebondir rapidement sur. Donc, t'as commencé à en parler tout à l'heure, notamment voilà des systèmes comme MaPrimeRénov. Là, j'ai entendu ces dernières heures justement le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui a annoncé une réduction des fonds alloués à MaPrimeRénov. De l'ordre d'1 milliard d'euros, si je me trompe pas.
Exactement.
Donc, j'aimerais avoir ton avis sur ça, et puis si tu peux justement nous préciser également quels sont les objectifs du gouvernement en matière de rénovation, et est-ce qu'ils te paraissent justement assez ambitieux?
Eh bien, tu as bien suivi l'actualité parce que effectivement, on a 1 milliard d'euros qui nous passe sous le nez sur un chantier aussi important. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment problématique qu'aujourd'hui on fasse une coupe sur un sujet pareil. La rénovation, c'est une mesure au-delà d'être environnementale, au-delà d'être une mesure de transition écologique importante, c'est une mesure socialement importante, c'est une mesure, qui coupe plein de sujets, quoi. Autant il y a des mesures de transition écologique qui sont difficiles à porter pour la société, pour les citoyens, où il va y avoir des crispations, des clivages, et ça s'entend. Là, c'est une mesure qui est gagnante-gagnante, quoi. Et on fait un pas de recul là-dessus. À l'heure actuelle, ça me paraît pas sérieux, comme dirait Aurélien Barraud. Mais pour revenir sur les réglementations, en tout cas, qui sont aujourd'hui actées, on a les, cette année 2023, c'est la loi climat et résilience qui a marqué l'entrée en vigueur des premières obligations de rénover les passoires énergétiques à la location. Donc il y a les passoires G+, là, depuis 2023, ensuite les G en 2025, ensuite les F. Voilà, il y a quelques années pour s'organiser pour ça, mais ça, c'est une obligation. Donc il faut accompagner les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs. On ne peut pas juste leur dire « on interdit » et puis ensuite on fait des coupes sur les aides, quoi. Et enfin, les accompagner financièrement, mais pas que, d'ailleurs, comme j'expliquais plus tôt. Donc c'est un peu paradoxal de dire une année où justement on rentre en vigueur des obligations de ce type, on fait des coupes sur les aides financières à la rénovation. Et puis il y a un autre point qui est un peu problématique selon moi, c'est que le gouvernement cet automne il avait affiché l'objectif de 200 000 rénovations d'ampleur en 2024. Alors d'ampleur, ça ne veut pas dire rénovation performante dans la loi. D'ampleur, ça veut dire travailler sur deux types de travaux et à 25% seulement de la surface du logement. Donc là, pareil, c'est une régression par rapport aux rénovations performantes qui impliquent de travailler sur 6 postes de travaux à l'échelle d'un logement. Donc en fonction des terminologies, les gens ne savent pas, évidemment, c'est normal, c'est technique, tout ça. Mais on n'est plus du tout sur les mêmes ambitions. Et donc oui, c'est un vrai recul, la décision annoncée par Bruno Le Maire. Et ce qui est peu encourageant également, c'est que si on enlève ces 1 milliard d'euros à la rénovation, on est quasiment certain, en tout cas tous les acteurs qui, au niveau national, font du plaidoyer sur ce sujet et suivent bien le sujet et avec lesquels on s'aligne, on est quasiment certain que ça va aller que vers des financements de travaux qu'on appelle monogestes et pas vers des bouquets de travaux. Donc que la rénovation... Enfin, on pourra se retrouver pour un podcast, si tu veux, en fin d'année, mais on n'aura pas atteint nos objectifs de rénovation performante, c'est certain.
D'accord, ouais, ok. Maintenant, j'aimerais qu'on... Alors, toujours sur ces passoires énergétiques, ce que j'aimerais comprendre, c'est quel impact elles ont sur l'environnement concrètement, en termes d'émissions de CO2 notamment. Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça représente? Et puis, si on essayait de rénover justement, qu'est-ce que ça éviterait en tout cas pour le CO2?
Alors ça, c'est un vrai sujet. On a des mesures d'impact de la performance environnementale, enfin des méthodologies de calcul de ces émissions de gaz à effet de serre évitées. Mais bon, elles ont ses limites et c'est assez complexe encore aujourd'hui d'estimer et d'évaluer cela. Donc je ne voudrais pas dire des chiffres qui peuvent être... qui sont pas parfaits. Okay. Mais en gros, le secteur du bâtiment est responsable en Europe de 36% des émissions de CO2, donc c'est énorme. Il y a un vrai enjeu de décarbonation qui est clair, qui peut passer par différentes choses, mais notamment aller vers la réduction de l'utilisation des matériaux carbonés, donc le ciment majoritairement, et aller vers l'augmentation des matériaux biosourcés, ou à minima des matériaux issus du réemploi. Et donc là, il y a un vrai travail sur quel matériel on utilise et comment aussi on développe des filières, des circuits courts locaux, quoi, au lieu d'aller chercher ça à l'étranger. Et globalement, quand on fait... Sinon, je peux te donner d'autres chiffres. Donc là, je fais un pas de côté parce que je préfère te donner des chiffres dont on est certain.
Oui.
En termes de réduction sur les factures d'énergie, une rénovation performante, ça va réduire par 4 à 8 les factures d'énergie du ménage. Donc... Tu te doutes bien que si les dépenses d'énergie baissent, il y aura des dépenses énergétiques au niveau du bâti aussi qui seront moindres. Et surtout, il y a des estimations qui ont été faites par le Commissariat Général au Développement Durable pour les coûts évités sur la santé, dont je te parlais plus tôt. Parce que la pollution de l'air, c'est une vraie question aussi. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'en Europe, la pollution de l'air est responsable de plus de mortalité que toute autre cause de mortalité. Donc c'est un vrai sujet. Et donc le Commissariat Général au Développement Durable estime que la rénovation de l'ensemble des logements des personnes en précarité énergétique d'ici 2028, donc 4 ans quand même, rappelons-nous qu'on est déjà en 2024, ça permettrait d'éviter des coûts de santé de près de 10 milliards d'euros par an. Donc je ne sais pas si on réalise les économies. Donc là aujourd'hui, Bruno Le Maire nous squeeze 1 milliard, mais... bah, voilà ce que la rénovation apporterait aux finances de l'État, quoi.
Ouais,
donc le temps long, c'est toujours une histoire de temps long, et le temps long et la politique, ça va pas, ça fait pas toujours bon ménage.
Ouais, complètement. Ok. Alors là, bah, je vais sortir un petit peu du sujet rapidement pour reposer une question que j'avais posée à Grégory Lamothe. Et que j'ai pas reposé depuis, mais c'est vrai que je la trouve en tout cas intéressante. Est-ce que tu te considères comme étant écolo?
Alors ça, c'est une question que moi j'apprécie à titre personnel, parce que déjà il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce qu'est être écolo.
Tout à fait.
Et beaucoup de préjugés, je trouve ça assez dommage. Je pense qu'aujourd'hui c'est... Pour moi, c'est un devoir de citoyen d'être écolo aujourd'hui, en fait. C'est un devoir d'humain, presque, d'ailleurs, même pas de citoyen. C'est préserver les conditions de vie sur Terre pour faire en sorte que la planète reste habitable. Je sais pas qui peut dire qu'il n'a pas envie de ça, à moins des gens hyper dépressifs. Mais sinon, ça me paraît être assez consensuel. Et puis c'est reconnaître aussi que les hommes sont pas au-dessus de la nature ou en dehors de la nature, et ils se sont extraits de leur environnement. Et je sais pas si tu connais Philippe Descola, qui est un anthropologue qui a travaillé sur, c'est un bouquin qui s'appelle Part de la nature et culture, et qui montre que bah justement dans la culture occidentale on s'est extrait de l'environnement pour considérer que bah, la nature et la culture on était distincts. Mmh. Et il y a d'autres cultures, notamment de peuples d'Amérique du Sud ou ailleurs, qui ont un tout autre rapport, dans des cultures plus animistes, etc., à la nature, et qui considèrent qu'en fait on n'est pas distincts, quoi. Mmh. Et donc pour moi c'est aussi reconsidérer qu'on est interdépendant du vivant, en fait, et qu'on on s'en sortira pas si on perd la diversité et l'abondance des espèces autour de nous.
Okay.
Puisque nous-mêmes, d'ailleurs, on est fait de bactéries. Et les bactéries, c'est la biodiversité. Donc, bon, voilà.
Tout à fait. Ouais.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais...
Si. Voilà. Non, mais si. C'est top. Je te remercie. Est-ce que tu peux me donner une innovation, alors potentiellement technologique, que tu considères comme particulièrement prometteuse et qui contribuerait au succès de la transition énergétique?
Alors, potentiellement technologique, tu ne vas pas avoir la réponse que tu souhaites, je pense, parce que j'aimerais bien parler d'autre chose, si tu me le permets.
Avec plaisir.
Nous, on parle souvent d'innovation sociale pour parler de ce qu'on fait chez Énergie Solidaire, de différentes manières, à la fois parce qu'on vient de l'économie sociale et solidaire et qu'on essaye de faire... entreprise ou en tout cas autrement, en remettant un peu de la démocratie justement au sein de l'entreprise, en se disant qu'il y a d'autres modes de décision possibles, pas aussi verticales, d'autres modes de gouvernance, pas aussi verticaux, pardon, et qu'on peut prendre des décisions autrement. Et typiquement, Enercop, avec qui on collabore beaucoup, sont aussi des exemples d'entreprises qui fonctionnent autrement. À la fois parce qu'elles sont à lucrativité limitée, donc c'est pas la seule course au profit, et à la fois parce que ce sont des sociétaires qui ont leur part dans l'entreprise et pas des actionnaires. Donc il y a ces citoyens qui détient l'entreprise. Il y a tout un tas de choses intéressantes qui, pour moi, sont de l'ordre de l'innovation sociale et qui sont tellement plus adaptées aux manières dont on doit apprendre à collaborer et à faire société aujourd'hui. Donc c'est plus là-dessus que je dirais qu'il faut se pencher. Je ne dis pas que toutes les innovations technologiques sont à jeter à la poubelle, loin de là. Je pense qu'elles peuvent nous être utiles, pour certaines en tout cas, et que c'est une question de mesure.
Ok, top. Alors, maintenant, il y a donc un autre sujet. Alors, peut-être avant de l'aborder, est-ce que toi, là, il y a d'autres sujets que tu aurais aimé aborder dans ce podcast? Ou est-ce que pour toi, ça te semble OK sur ce sujet-là?
Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on devait dire? Peut-être vous dire un peu plus aussi, parce que je ne crois pas avoir abordé tout à l'heure la question, là j'en parlais un peu, mais de la gouvernance, comment on fait gouvernance autrement dans des structures comme les nôtres. Et c'est vrai que ça compte dans la manière dont on sélectionne, nous, nos associations, etc. Rappeler que Énergie Solidaire, on considère qu'on est un intermédiaire, un outil au service des territoires, au service de la lutte contre la précarité énergétique, mais qu'on n'est pas des experts sur le terrain. Et du coup, on s'entoure de ces experts-là, que ce soit au niveau national ou à l'échelle de notre programme Occitanie. On a ce qu'on appelle un comité d'engagement, et qui est composé d'experts de la précarité énergétique. Donc dedans, on a la Fondation Abbé Pierre, on a Doremi, voilà, tout un tas d'acteurs. Au niveau national, la Fédération Solia. Au niveau régional, on a le Secours Populaire, Occitanie, voilà. Tout un tas d'acteurs qui, clairement, sont au contact et ont l'expertise locale sur ces questions-là. Donc, rappelez que c'est eux qui co-construisent avec nous notre appel à projet, choisissent la thématique, les critères de notre appel à projet, sélectionnent les lauréats, et que c'est pas nous tout seuls. Donc on a vraiment cette gouvernance équipe opérationnelle d'Énergie Solidaire, conseil d'administration et comité d'engagement, et c'est les trois entités qui permettent au quotidien de gouverner la structure, quoi, et d'avancer ensemble.
Okay.
Donc ça, c'est des modèles un peu différents, qui tendent à se développer, parce qu'il y a des comités d'experts, des comités scientifiques dans pas mal de structures, mais c'est vrai qu'on est amené à collaborer avec des acteurs très différents, entre les collectivités, les entreprises des énergies renouvelables et du bâtiment, les acteurs plus associatifs et de l'économie sociale et solidaire, les citoyens. Mmh. Et c'est assez riche d'être entouré de cette diversité d'acteurs. C'est aussi comme ça qu'il y a des belles choses qui se passent, quoi.
Ok, cool. Et donc, ouais, la dernière question, enfin d'ailleurs, ce sera l'avant-dernière précisément que je souhaitais te poser. Donc, c'est, en tout cas, c'est un thème que j'aurais aimé aborder avec toi. C'est la place des femmes dans le domaine de l'énergie. C'est vrai que, pourquoi j'en suis venu à me poser cette question-là, c'est. C'est vrai que initialement je comptais en tout cas essayer de respecter une parité dans les intervenants au podcast. Pour le moment, hein, j'en suis très loin, les auditeurs le verront assez rapidement, puisque t'es la première femme à intervenir sur 6 enregistrements. Mais ouais, j'ai eu du mal à trouver des femmes pour intervenir.
Il y en a, je t'assure.
Mais pourtant, voilà, donc certainement que j'ai mal fait mes recherches, ou en tout cas mal présélectionné, enfin. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça?
Déjà, c'est merci de poser cette question et de t'auto-analyser là-dedans, c'est déjà un beau chemin. Moi, pour partir de mon expérience, et puis après j'essaierai de donner quelques chiffres dont j'ai connaissance, même si je pense pas pouvoir répondre. Il y a un webinaire qui sera certainement rediffusé sur le monde de l'énergie, un monde d'hommes, qui est présenté par Enercop ce soir. Donc si les auditeurs veulent en savoir un peu plus, ils pourront écouter. Mais moi, c'est vrai que de mon expérience, le monde de l'énergie, enfin, comme je suis amenée à collecter des dons, et donc à lever des fonds, je suis amenée à intervenir à des événements de la filière des énergies renouvelables. Et puis, ça m'a assez... Oui, ça saute aux yeux quand, dans 3 tables rondes, il y a une ou deux femmes sur tous les panels, et que parfois, il y a 6 intervenants hommes. Et moi, ça me saute tout de suite aux yeux. J'ai l'impression que ça saute aux yeux de personne, à part moi, mais peut-être à d'autres femmes, en fait. Mais quand on est sur scène ou même dans l'auditoire, c'est vrai que c'est assez troublant. Ne serait-ce que je vois régulièrement des photos aussi sur LinkedIn. Hein, la présidente de France Renouvelable, la filière aujourd'hui de l'éolien, c'est une femme. Mais dès qu'il y a des événements, donc il y a elle qui prend la parole et puis le public, c'est que des hommes. Donc ouais. C'est assez détonnant, quoi. Ça ressort. Et moi, je tiens à le dire à chaque fois, je le dis aux organisateurs, je me permets de le dire, qui me rétorquent que ce sont des structures, enfin, les structures qui choisissent qui intervient. Et souvent, et j'entends bien, hein, et souvent, ce sont les dirigeants qui sont les figures représentantes des structures, ou alors des directeurs techniques qui sont majoritairement des hommes. C'est là que je veux en venir, c'est que dans le milieu des énergies renouvelables, en tout cas, il y a 32% de femmes, c'est pas. Enfin, il y a pire, quoi. Il y a des secteurs où c'est pire. Dans le fossile, c'est une femme sur 5 dans le secteur des ENR, c'est 2 femmes sur 5, en gros, d'après une asso qui travaille sur les communautés énergétiques en Europe, Rescope EU. Mais ce qui est, enfin, là où il y a vraiment une distinction, en fait, enfin, quelque chose qui ressort bien, c'est que majoritairement, les femmes tiennent les fonctions administratives. En fait, sur les postes sciences, technologie, ingénierie, ce sont des hommes, majoritairement. Et donc, comme de nombreuses fonctions du secteur de l'énergie exigent des compétences d'ingénieurs, forcément, les hommes s'y retrouvent. Et on observe apparemment un effet plafond de verre qui est que, majoritairement, près de la moitié des entreprises privées interrogées par une étude de l'Agence internationale des énergies renouvelables, une étude qui est parue en 2019, il y a 75% des membres des conseils d'administration qui sont des hommes. Donc, en fait, il y a un plafond de verre qui est là pour les femmes qui certainement restent responsables communication ou à des postes plus en lien avec l'administration. Voilà, et puis de ce que j'ai lu aussi de la littérature, il y a un manque de soutien apparemment, enfin ça permettrait moins d'attirer des femmes le fait qu'il y ait pas forcément des horaires de travail flexibles qui permettent des mesures favorables à une vie familiale. Et puis après, effectivement, il y a tous les enjeux de la formation, mais c'est bien plus en amont justement de toutes les écoles d'ingénieurs, etc., encore plus masculines aujourd'hui. Mais sur le monde de l'énergie et les femmes, pour revenir à mon sujet, c'est qu'au-delà de ne pas décider du coup de la question de l'avenir énergétique, puisqu'elles ne sont pas au poste décisionnaire pour le faire, elles subissent aussi, au-delà du monde professionnel, la précarité énergétique dans le foyer, puisque les femmes sont... les familles monoparentales sont les plus touchées par la précarité énergétique, et la plupart des familles monoparentales sont des femmes. C'est d'ailleurs le rapport sur le mal-logement 2023 de la Fondation Abbé Pierre qui a fait un cas d'étude sur les femmes.
D'accord.
Et qui le montre. Donc voilà, il n'y a pas que dans le monde professionnel que ça se ressent, ça aussi dans le foyer.
Ouais, ok.
Voilà.
Ok, top. Bon, merci beaucoup pour cette réponse. Oui, petite précision. Je mettrai, si effectivement il y a un replay du coup du webinaire en question, je le mettrai effectivement en lien dans la description de cet épisode. Et puis, je mettrai également un lien vers Énergie Solidaire, hein, si vous voulez vous aussi aider et œuvrer en faveur de cette belle cause.
Merci.
Écoute, si j'avais une dernière question... c'est vrai que je l'avais jamais posé jusqu'à maintenant, mais est-ce que tu aurais un livre à conseiller sur franchement à peu près ce que tu veux, mais c'est vrai que je pense à ça aussi parce que en faisant mes petites recherches j'avais vu que parfois tu avais déjà conseillé sur LinkedIn je crois des livres, voilà, ouais, est-ce que tu en aurais un à conseiller?
Alors moi je suis une grande lectrice en plus, là il va falloir, en plus tu me poses cette question en direct, tu me prends au dépourvu.
Ouais, c'est vrai que je t'en ai pas parlé avant.
Je vais faire une sélection très rapide, mais c'est vrai que sur LinkedIn j'avais mis des BD, en tout cas j'avais partagé les BD d'Étienne Davodeau, donc je refais une petite spéciale dédicace à Étienne Davodeau, Le droit du sol et Les ignorants qui sont deux BD que je conseille fortement. Et puis j'ai une autre BD, du coup je vais conseiller des BD, pourtant je peux conseiller d'autres formes de livres, mais j'ai beaucoup d'autrices qui me viennent en tête, hein. C'est peut-être parce qu'on vient de poser une question sur les femmes, que je suis un peu féministe quand même, mais il y a une autre BD qui s'appelle Il est où le patron, c'est des femmes agricultrices qui parlent aussi justement du patriarcat qui s'exprime dans ce monde agricole et qui est très intéressante. Et sinon, est-ce que j'ai un livre ? Il y a le dernier, Koning, il s'appelle Humus, qui est vraiment là, donc plutôt sur les lombriques et sur deux jeunes étudiants diplômés d'AgroParisTech qui vont prendre deux voies professionnelles différentes. Un qui veut plutôt s'extraire, on va dire, de la société un petit peu pour retourner à quelque chose de très terre à terre, une autre vie, et l'autre qui va monter sa start-up, et ça déconstruit un peu tous les clichés de il y a une voie qui est bonne et l'autre qui est pas bonne, la voie de la décroissance et la voie de la croissance à tout prix. Donc Voilà, je conseille.
Ok, trop cool. Ouais, merci beaucoup, Lucie. Bah écoute, ouais, on arrive au bout de cet épisode. C'était, en tout cas pour ma part, je l'ai trouvé hyper intéressant. Bah voilà, si jamais toi t'as quelque chose à rajouter, je t'en prie. Et puis sinon, bah, je te remercie pour cet échange.
Je pense que j'ai assez parlé. Merci Thomas.
Merci à toi.
Et je vous remercie également de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, vous avez également la possibilité de mettre un commentaire sur ce podcast. Donc écoutez, je vous remercie et on se dit à la prochaine.